Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue sur BPM. Très bon réveil si vous ouvrez les yeux en notre compagnie. 8h, passé de 3 minutes, l'heure de notre émission Les Rendez-vous du Mantois. Et c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi pour 20 minutes en direct depuis une mairie. En cette fin de semaine, je suis à Montalet-le-Bois, un village périurbain de 323 habitants, situé à 10 km au nord-ouest de Melun-en-Yvelines. Et je suis en compagnie de Maël Vautin, maire de la commune depuis 2021, également conseiller communautaire GPSEO. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir au sein de votre mairie. Ce matin, nous allons aborder ensemble divers sujets en bilan de mi-mandat, avec tout d'abord le redressement des finances publiques et la mise aux normes de bâtiments, puis l'école communale et les nouveautés qui seront mises en place à la rentrée, et enfin de la mise de vie dans le village. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Montalet-le-Bois ?
Oui, c'est un petit village qui fait partie du parc naturel régional du Vexin français et qui est aussi intégré au territoire de GPSO.
Est-ce que aujourd'hui, on sait qu'être maire, ce n'est pas de tout repos. Maire d'un village nécessite, on le sait, une très grande proximité. Comment c'est d'être maire au quotidien ?
Maire au quotidien, c'est savoir faire le grand écart, savoir régler un problème de plomberie et en même temps être conseiller communautaire le soir. Comme cet été, gérer un incendie dans les champs. Donc faire le relais avec les forces de l'ordre, c'est être proche du personnel aussi puisqu'il faut faire les réunions hebdomadaires, savoir monter un budget une fois par an, il faut vraiment être un couteau suisse en fait.
Vous êtes sur tous les fronts.
On n'a pas le choix.
Vous avez pris vos fonctions en septembre 2021, on arrive à peu près à mi-mandat, l'occasion de faire un premier bilan. Commençons par le sujet, les finances publiques, comment ça s'est passé ?
Alors les finances publiques, oui, c'est le but de notre mandat, avoir en fin de mandat un village avec des finances saines, assainies en tout cas, et qui tournent. Donc il a fallu travailler sur la masse salariale dans un premier temps, puisque par rapport à nos strates, on était vraiment au-delà des normes. Ça s'est traduit par du changement de personnel, aussi des changements d'habitude, puisqu'avant on avait un agent qui faisait l'entretien et là on passe par une entreprise. Donc c'est des petites choses, mais qui au quotidien amènent quand même beaucoup d'économies sur la masse salariale.
Vous avez repris en main sur différents points finalement.
Oui, il y a eu ce travail sur la masse salariale, il y a eu du travail sur les contrats en cours aussi, notamment le contrat de photocopie, qui était énormissime, c'est-à-dire qu'on est quand même, on a un contrat qui se termine aujourd'hui, enfin qui va se terminer le mois prochain, en juin, 25 000 euros par an, et pour la même chose, on repart pour 4 000 euros par an.
Avec pour un nouveau prestataire. Le même type de contrat, le même type de prestation.
Exactement la même chose, le même nombre de machines, le même nombre de copies, tout à l'identique.
Donc votre volonté, c'est ça, hein, repartir sur des bonnes bases finalement.
C'est ça, des bases solides et puis qui tiennent la route dans le temps.
Et ensuite, qu'est-ce que vous pourrez faire ?
En parallèle de ça, on a une remise à niveau de tous les services et des bâtiments. Il y a un gros travail sur l'électricité qui a été fait au niveau de l'école. Au niveau des agents, il a fallu les rééquiper en équipement de sécurité, en vêtements, en machines, puisque tous ces services-là étaient un peu défaillants.
Ce sont des défauts qui avaient été soulevés, hein, c'est ça ? Qui avaient été remarqués et qu'il a fallu ensuite remettre aux normes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. De toute façon, dès l'instant où on a pris en main la mairie, on s'est rendu compte que pour qu'un agent travaille bien, il faut qu'il soit correctement équipé et mis en sécurité. Et notre première volonté, même avant même de parler d'économie, ça a été de mettre nos agents dans des bonnes conditions.
Quel type d'équipement vous avez dû avoir à rééquiper, on va dire ?
Ça va au niveau du personnel, ça va des chaussures de sécurité aux gants jusqu'à un petit boîtier. Comme notre agent communal est seul, on a qu'une seule personne qui fait l'entretien du village. Il a un petit boîtier qu'on appelle homme seul. Donc en cas de problème, de chute ou de choses comme ça, le boîtier se déclenche, il nous appelle directement. Donc c'est vraiment à tous les niveaux. Donc oui, c'est et de l'équipement, ça peut être une blouse pour les dames de cantine, ça peut être des choses simples comme ça, comme des choses de sécurité élémentaire.
Au niveau de l'école, hein, vous l'avez dit, vous avez fait des grosses modifications, enfin en tout cas des gros travaux en électricité. Quel était ce besoin ?
Suite au contrôle annuel de la PAV, qui est ressorti avec beaucoup de défauts, il a fallu remettre au point tout le système électrique, notamment tout ce qui était différentiel, etc., qui n'était plus aux normes. Et puis des points de sécurité comme ça, il y en a d'autres. Hein, par exemple, il a fallu remettre une porte coupe-feu dans la cantine qui avait l'honneur d'exister, mais qui n'était pas en place. Donc,
on sait à quel point ça peut être capital et nécessaire.
C'est ça.
En plus de ce qui a été fait, des projets sont en cours, comme le changement des lampadaires, vous nous disiez ?
Oui, alors ça, c'est en lien avec GPSO. Donc, on a la réfection de tous les lampadaires. Donc, ça va s'étaler sur plusieurs années. Là, ça a commencé l'année dernière. On change les mâts, les luminaires pour passer en LED. Et puis, la réfection des voiries aussi. On a deux rues là, sur les deux prochaines années qui vont être refaites à neuf. Les deux rues principales du village. La départementale qui traverse le village a été faite il y a 2 ans. Donc, là, on poursuit ce renouvellement.
Et pourquoi cette volonté de changer les lampadaires ?
Alors, dans un premier temps, parce qu'ils commençaient à être un petit peu obsolètes et puis certains étaient très abîmés. Et puis, d'un point de vue énergétique aussi, le passage au LED est forcément bénéfique. On connaît tous la différence qu'il y a entre ce qui se faisait avant et le LED aujourd'hui. Donc, ça devenait primordial de passer à ça.
Un autre changement également prévu, vous me disiez, la chaufferie de l'école. Oui. Qui va être changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors la chaufferie de l'école aujourd'hui est quand même assez vieille. Et puis c'est du fioul. Donc ça va être compliqué derrière de faire toutes les réparations et d'entretenir la chaudière. Donc là, on a pour nous, ce qui est un gros projet pour le village, c'est de changer cette chaufferie. On est en pleine étude au niveau des bâtiments. Il y a une étude thermique à faire avant, afin de pouvoir valider derrière les subventions, etc. Et puis là, on en est au stade des devis. Donc, on a plusieurs entreprises qu'on a contactées pour avoir une première approche de la technique, savoir quelle était la meilleure chaudière à mettre en place aujourd'hui. Et puis là, on attend le chiffrage pour pouvoir après continuer le dossier.
Quand est-ce que vous espérez pouvoir le faire ? En tout cas, quand est-ce que le projet pourrait être finalisé ? Est-ce que vous avez une idée de délai ?
Oui, je pense qu'avant l'été prochain, ce sera finalisé. En fait, on a un calendrier tenu par les subventions. Et le dépôt des subventions se fait en début d'année. Donc là, l'objectif, c'est que ce soit le dernier hiver qu'on passe avec l'ancienne chaudière, l'hiver qui arrive, et qu'après, on puisse tout de suite embrayer avec la nouvelle.
On va continuer avec l'école, hein, justement. Et vous avez une école de 2 classes, où le nombre d'élèves varie chaque année en fonction des arrivées.
Oui, c'est ça, en fonction des arrivées, parce que chez nous, l'école est petite. Donc cette année, on a 38 élèves. Ça fait une dizaine d'années que le nombre augmentait. C'était lié au renouvellement de la population dans le village avec les maisons qui se vendent. Là, c'est vrai qu'on stagne un petit peu sur les 2 prochaines années, mais derrière, ça, le nombre d'entrées en petite section va remonter. Donc, on garde le cap et on maintient nos 2 classes, quoi qu'il arrive.
Et vous attendez beaucoup de bébés sur la commune. En tout cas, c'est votre...
C'est ça. Ça fait partie des conditions pour intégrer la commune. Si vous voulez acheter une commune, il nous faut des enfants sur les 2-3 prochaines années.
Et vous allez, à partir de septembre, il va y avoir une grande nouveauté à l'école avec les tablettes.
Oui, c'est un projet en lien avec le département. Donc, c'est la mise en place de tablettes pour les CM1, les CM2 et puis l'enseignante forcément qui a ces 2 niveaux-là. Donc, après plusieurs mois de conventions, de signatures, de relevés techniques, normalement, à la rentrée prochaine, nos CM1 et nos CM2 seront tous équipés de tablettes. C'est une tablette qui les suit après au collège. Et c'est une convention qui s'étale sur 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, tous les CM1 qui entreront dans ce niveau-là seront équipés de la tablette.
C'était quelque chose d'important, ça, pour vous, de pouvoir les équiper ?
Oui, je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Et il faut tout de suite que ces enfants s'habituent à la bonne utilisation de ces outils-là. Ils ont tous accès à la maison, à des téléphones, à des tablettes, à tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on peut leur montrer qu'on peut travailler aussi avec ces outils-là, pas forcément que jouer ou naviguer sur Internet. Donc, c'est vraiment cadré. C'est une volonté qu'on a déjà mis en place il y a 1 an en renouvelant le tableau numérique.
Interactif, le fameux voilà, TMI dont on entend si souvent parler.
Voilà, donc là, ils en ont un tout nouveau, très interactif. Ils peuvent être à 4 dessus. Et la tablette permettra aussi d'envoyer une tablette sur l'écran ou d'envoyer ce qu'il y a sur le TNI, sur les tablettes. C'est vraiment, vraiment très interactif et c'est la maîtresse qui gère tout ça depuis sa tablette à elle.
Et en plus, vous nous le disiez, vous aviez 2 classes. Et pour donner une idée à nos auditeurs, les 2 classes sont maternelles et primaires. Oui. Et non pas une classe maternelle, une classe primaire. Vous pouvez nous en parler un peu de cette répartition?
Voilà, en fait, la répartition, elle évolue un petit peu chaque année. Mais concrètement, on a une classe qui fait de la petite section au CE1 et du CE2 au CM2.
Donc, avec ça fait deux quand même, enseignants.
C'est ça, deux enseignants qui ont au mieux trois niveaux, au pire, je dirais, cinq niveaux à gérer. Mais sur des effectifs qui restent quand même assez restreints.
On s'était rencontrés il y a quelques semaines, puisque vous avez également installé un espace sans tabac autour de l'école, ce qui est tout de même un fait plutôt rare et qui tend à se démocratiser. Comment ça fonctionne exactement?
Donc la mise en place se fait avec la Ligue anti-cancer. Donc c'est un partenariat qui est avec l'école, qui existait déjà auparavant avec la mise en place de d'agenda. Tous les ans, la Ligue anti-cancer nous donne des agendas pour les enfants, des agendas où dedans il y a plein d'illustrations faites par des écoliers en lien avec le cancer. Et puis l'étape suivante, c'était un partenariat avec la mairie. Donc mairie, école et la Ligue contre le cancer, ça donne lieu à l'espace sans tabac. Donc c'est un périmètre autour de l'école dans lequel on ne peut pas fumer, on ne peut pas avoir de cigarettes à la main. C'est un endroit neutre. Il faut casser le code et que les enfants arrivent à se dire c'est pas normal, qu'est-ce qu'il fait le monsieur, qu'est-ce qu'elle fait la dame, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, pourquoi ça fait de la fumée. Tout ça, ça doit être des questions qui doivent être naturelles. À l'inverse d'aujourd'hui où les enfants se disent oh bah lui il fume, elle fume. Il faut vraiment que fumer devienne quelque chose de bizarre.
Est-ce que depuis la mise en place, vous avez vu un effet, les gens le respectent?
Alors moi, je suis très souvent à l'entrée, à la sortie de l'école pour mes enfants. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai repris personne. Donc je ne sais pas si c'est l'effet de la nouveauté ou si ça va perdurer. Mais en tout cas, vu que j'y suis très souvent, je ne manquerai pas de rappeler à l'ordre. Mais pour l'instant, ça tient.
Et ça sensibilise effectivement, comme vous le disiez, beaucoup les enfants. Ils ont été très partie prenante aussi dans ce projet.
Oui, c'est ça. C'est un thème qui est abordé quand même avec les maîtresses au sein de l'école, du fait du partenariat qui est déjà existant. Et on reçoit le petit magazine trimestriel. Merci. Oui. Donc du coup, ils ont déjà abordé ce sujet plusieurs fois. Et c'est un sujet, oui, qui les intéresse. Par contre, ils ne comprennent pas toujours bien le lien cigarette-cancer. Donc il a fallu expliquer certaines choses. Et puis, il a fallu aussi répondre à des questions bizarres. Mon papa se détend avec une cigarette, comment il va faire après s'il ne peut plus fumer? Donc moi je lui ai proposé de venir nous aider à tondre le village, il y a de quoi faire.
Peut se détendre sur la pelouse.
Exactement, il n'y a pas de souci.
Un autre point qui vous tenait à cœur, c'est remettre de la vie dans le village.
Oui, j'avais vraiment envie de remettre ça en avant, qu'il y ait une vie de, ce que j'appelle moi une vie de village. Donc on a mis en place un marché le jeudi soir, ça fait une grosse année maintenant qu'il existe. C'est un point de rendez-vous, alors surtout quand il fait beau. L'hiver, c'est un petit peu plus difficile, mais quand il fait beau, c'est vraiment un point de rencontre.
On a espoir, la saison reprend.
C'est
le
ça.
Marché va bien repartir.
On va sortir
alors.
Les tables et puis ceux qui désireront manger sur place pourront le faire, il n'y a pas de souci, c'est vraiment fait pour ça. Donc ça, on l'a remis en place il y a un an. On a fait le 14 juillet avec une partie des commerçants. D'ailleurs, cette année, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de 14 juillet qui était... de fête du 14 juillet qui était faite dans le village. Donc du coup, avec les commerçants qui étaient là, on a proposé quelque chose de très simple. On a sorti toutes les tables de la salle des fêtes, on a occupé la place devant la mairie, et puis le traiteur qui était là a proposé des plats simples, c'était saucisses frites, poulet frites, des choses comme ça, chacun réservait.
Ce qui plaît toujours.
On s'est tous assis là jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent à minuit.
Pour revenir sur le marché, qu'est-ce qu'on peut y trouver pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui seraient dans le village et qui... n'aurait pas eu l'occasion d'y passer, qu'est-ce qu'ils vont y trouver?
Alors aujourd'hui, on peut trouver un traiteur, un charcutier, un rôtisseur et qui est aussi un rayon fromage. Et on a un food truck qui fait kebab et hamburger.
D'où l'idée d'avoir des tables et de pouvoir partager.
Même le rôtisseur fait des plats et des frites. Donc c'était vraiment chacun allait se servir chez le commerçant qui l'intéressait le plus. Et puis voilà.
On est vraiment sur l'idée de la convivialité, c'est ça que vous vouliez?
Oui. Du simple, du convivial, mais que ça réunisse les gens.
Et pour ça, il y a le festival, le OFF du EOL Factory Festival, qui est organisé par GPSEO, auquel vous avez déjà participé?
Oui, on l'a mis ça en place l'année dernière, donc ça s'est super bien passé. C'est donc GPSEO qui, alors pour le coup, chez nous, a tout financé. Et je remercie GPSEO pour ça. Une journée formidable. Les enfants ont été accueillis dans un premier temps pour construire des instruments de musique. leur donner une note à ces instruments et puis après participer à la fanfare qui a déambulé dans le village. Donc ça a donné lieu à une heure de déambulation dans le village avec des moments clés où les enfants, enfin on s'est tous arrêtés et les enfants ont participé à la fanfare. Et en revenant sur à l'école, puisque c'était le point central en fait de cette animation, on avait des numéros de cirque qui étaient là. Les associations aussi nous aident beaucoup pour tous ces moments-là, donc que ce soit l'association des parents d'élèves ou l'association du comité des fêtes qui est en train de se renouveler, de se relancer. Ça met un peu de temps, mais ça va reprendre.
Qui participera, je suppose, avec d'autres animations pour continuer à installer cette vie dans
le... On attend les projets. On attend tous les projets, mais effectivement. Il y a eu un marché de Noël qui a été fait l'année dernière. Qui a eu beaucoup de succès avec il y avait 25 commerçants qui étaient là, les associations qui étaient là pour les crêpes et le vin chaud parce qu'à Noël c'est un incontournable, et puis l'école qui a participé, le Père Noël a participé, donc c'était vraiment ça regroupe vraiment tout le village.
Et là il y a la seconde édition du coup de ce fameux festival que vous allez aussi réorganiser à nouveau.
Oui, en septembre prochain, donc on participe à la prochaine édition du festival. Donc là, on change de décor, on va dans l'église avec un concert qui débutera normalement dans l'église et qui sera amené à sortir de l'église sur la fin de la représentation. On en est au stade de la mise en place, mais voilà, on renouvelle l'expérience parce que ça s'est vraiment très très bien passé. C'est vraiment un temps agréable dans le village.
Ce sont des projets comme ça que vous avez envie de faire perdurer ?
Oui, parce que ça fonctionne, parce que les gens viennent. Ce qu'on espère, c'est qu'ils viennent de plus en plus. Et des gens extérieurs du village viennent aussi, ce qui est important aussi, parce que le but, c'est pas de vivre en autarcie, c'est aussi que les gens rentrent dans le village, découvrent le village. Il est tout petit, donc si vous passez pas là par hasard, pour venir à Montalet, il faut presque qu'il y ait un but. Il y a de très belles balades à faire, mais là, on propose quelque chose en plus. On a eu beaucoup d'extérieurs qui sont venus l'année dernière. Et puis la communication via GPSO fait que ça touche tout le territoire. Donc du coup, on va avoir cette année, mais j'espère avoir beaucoup de monde aussi.
C'est vraiment important pour vous, ça, cette envie de mettre de la vie. Plus, vous trouviez que ça s'éteignait ?
Oui, alors il faut admettre qu'il y a eu l'effet Covid, qui a quand même plombé un petit peu tout ça. Maintenant... Si dans un petit village comme le nôtre, il n'y a pas une vie, si les gens ne se connaissent pas, si les gens ne peuvent pas passer de bons moments ensemble, ça devient vite un village dortoir. Et ça, c'est pas ma conception du village, en fait. Aujourd'hui, en relançant cette vie-là, en parlant avec les gens, on a aussi des élans de... comment je pourrais vous dire ça, ça amène des actions où les gens nous disent « Tiens, vous avez besoin d'un coup de main ?» De l'entraide. Je peux vous aider à faire ça, je peux vous aider à faire ça. Moi, j'ai telle machine. Donc, c'est vraiment cette unité-là qui fait qu'un village comme le nôtre peut aujourd'hui continuer d'exister.
Et c'est ce que vous souhaitez pour l'avenir, alors ?
Oui, complètement.
C'est sur ces mots que nous terminerons notre émission Les Rendez-vous du Mantois. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus.
Merci.
Merci également à Robin, notre réalisateur ce matin. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale. Tout de suite, c'est le retour de la matinale de Pauline et Fredo sur BPM.
Les Rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.